L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Avec nous, on est toujours content d'aller dans la parole de Dieu. Dieu est tellement bon. Moi, je suis tellement encouragé aussi. Vous savez, cette semaine, j'ai reçu un courriel. Un monsieur qui est en charge d'un ministère, je ne dirais pas lequel, mais qui a quand même une responsabilité importante. Et puis, il est dans une province où il n'y a pas beaucoup de francophones. Et lui-même, c'est un francophone. Et puis, il m'a envoyé une lettre cette semaine me disant qu'on était sa seule source de nourriture. Puis, il a dit qu'il est en train de dessécher là où il est présentement, mais il est tellement content pour le ministère ici parce qu'il dit c'est ma seule source de nourriture spirituelle. Puis quand j'ai vu ça, c'est pas la première fois qu'on reçoit ça, mais ça me fait chaud au cœur. Puis je me dis, hey, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de Bromont? Ça touche des vies partout, à plein de places, parce que c'est l'idée de Dieu, cette église. Puis tous les projets que Dieu a pour nous, c'est son idée. C'est pas mon idée, c'est son idée. Et puis, ce soir, la parole que j'ai reçue pour vous, c'est un texte super merveilleux, Philippiens 4, verset 13, qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est simple comme message, mais c'est ça, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il n'y a absolument rien au monde dont le Seigneur vous demande à faire, ou un projet, ou un appel, une destinée, qui est pour vous impossible. Qu'est-ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Que si Dieu vous appelle à faire quelque chose, votre réponse est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout. Il n'y a rien au monde que je ne peux pas faire. Mais bien sûr, c'est par celui qui me fortifie. On va prier ensemble pour la parole, que le dépôt de la parole de Dieu porte fruit dans vos cœurs. Amen. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci Seigneur Dieu parce que ta parole transforme nos cœurs, nos vies. Et Seigneur Dieu, je prie que ton Esprit Saint travaille dans chaque cœur et que cette parole porte fruit pour toujours, Seigneur Dieu. Que l'ennemi ne viendra pas voler le dépôt, mais non, qu'on puisse voir une récolte rapide des gens encouragés en toi, qui ont une soif de s'approcher de toi, qui veulent s'approcher davantage et qu'on puisse voir vraiment, Seigneur, ta main dans leur vie. On te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est si, si merveilleuse, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, on prie. Pour ce que tu fais. Amen. Amen. J'aimerais ça vous inviter à tourner dans Hébreux, chapitre 11 et le verset 1. Vous savez, on a tous des rêves. Moi, je sais que depuis que je suis très petit, j'avais des rêves de faire des choses pour le Seigneur. Et je sais que tous et chacun, vous n'avez des rêves. Et peut-être, ça fait tellement longtemps que vous rêvez, que vous osez plus y croire, ou peut-être vous osez plus n'en parler aux gens parce que vous vous dites, bien, c'est trop grand. Qu'est-ce que les gens vont dire à mon sujet? Parce que ces rêves-là sont trop grands. Puis qu'est-ce que les gens vont penser à mon sujet si j'ose partager avec les gens que j'ai des rêves? Des fois, on a peur du jugement, n'est-ce pas? Des fois, on a même peur d'être déçu plus tard, c'est-à-dire qu'on n'ose pas rêver. Mais ce soir, le Seigneur vous encourage à rêver encore plus. Puis de garder ces rêves-là qu'il a déposés dans vos cœurs. Amen. Et dans Hébreux 11, le verset 1, ça dit... Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, si on espère voir quelque chose dans nos vies, habituellement, on va prendre un pas par la foi pour voir la réalisation de cette chose-là. Le doute nous dit, bien, moi, je ne peux pas prendre un pas par la foi parce que qu'est-ce qui va se passer si je vis un échec? Mais la foi va avoir une démonstration. Il va déjà avoir des pas dans la direction de cet espoir-là. Amen. Et puis, ce matin, on écoutait un témoignage de Patricia King. Et puis, mon épouse et moi, on se rappelait d'un temps quand Patricia était partie à Phoenix, Arizona, en Arizona, aux États-Unis. Le Seigneur lui avait dit de déménager par là-bas pour son ministère. Et puis, je me souviens, elle avait acheté une maison mobile. Et puis, son ministère au Canada était béni. Mais le Seigneur lui disait de s'en aller là-bas. Et puis, même le Seigneur lui avait dit « Va-t'en dans le désert ». Puis au début, elle ne savait pas c'était où le désert, mais elle est allée prêcher à Phoenix, en Arizona. Et puis, quand elle était là-bas, le Seigneur lui a dit « C'est ici ». Ça fait que là, elle a déménagé par là-bas, s'est installée une maison, tout ça, en maison mobile. Puis elle a commencé vraiment, vraiment au bas de l'échelle. Elle témoignait qu'elle avait une femme qui l'aidait avec son émission de télévision. Il y avait simplement une caméra. Puis là, il filmait. Et pendant qu'elle parlait, bon, la caméra était d'une certaine pause. Puis là, pour continuer, elle arrêtait. Elle continuait le restant de sa phrase comme ça. Puis là, il changeait la caméra de côté. Juste pour dire, pour avoir deux angles de caméra. Moi, je ne savais pas qu'elle avait fait ça. Mais je trouve ça, c'est beaucoup d'ouvrage. Mais elle voulait tellement obéir à la voix de Dieu. Avec une seule caméra, il n'y avait pas d'argent pour plus que ça. Mais il prenait la peine de faire les deux angles comme ça. Mais là, aujourd'hui, son ministère, c'est partout à travers le monde. Et on la connaît, nous, Mathilde et moi. Puis je peux vous dire, elle disait sur l'Internet, elle disait maintenant, elle dit, vous savez, on a pris des pas par la foi, mais aujourd'hui, notre budget, là, juste pour les médias, c'est au-dessus de 700 000 $ cette année. Mais vous voyez comment on prend un pas par la foi, puis Dieu vient. Puis quand c'est le projet de Dieu, c'est pas notre projet, Dieu donne la provision. Puis je trouve ça encourageant. Puis j'ai écouté une autre parole prophétique. C'est une parole d'une femme que je connais même pas, mais était recommandée par un bon ministère. Puis j'ai écouté le message, puis c'était vraiment fantastique. Parce que ça dit là-dedans que Dieu est en train de bénir les ministères qui ont un appel pour les médias. Parce que les médias, c'est la voix qui diffuse l'Évangile. C'est la voix de Dieu vers les nations. Les gens viennent pas tous à l'église, sauf que quand on a un message dans les médias, les gens peuvent capter ce message-là, que ce soit dans leur maison, dans leur auto, à la radio, sur l'Internet. C'est vraiment précieux pour Dieu, les médias. En tout cas, dans la parole prophétique, ça disait, cette parole-là, je vais vous dire en anglais, ça dit « I'm writing the check ». Hein, c'était ça? « I'm writing the check ». Et je me souviens plus par cœur. En tout cas, elle dit « OK, c'est ça. C'est, and this is why I'm writing the check ». En tout cas, quelque chose comme ça, ça rimait même de la façon. Mais Dieu disait, je donne la provision pour ces ministères-là, parce que c'est les ministères qui sont sur le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dans les médias ne sont pas dans le cœur de Dieu. Mais présentement, il y a un temps spécifique où Dieu est en train de bénir les ministères dans les médias. Puis moi, ça m'a réjoui, parce que notre cœur, c'est de continuer dans les médias, même si on est ici à Bromont, au Québec, où il n'y a pas de station de télévision encore. Amen. Mais vous savez, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de parler avec des gens. Puis, c'est quoi vous êtes en train de faire à Bromont? Bien, on est en train d'établir un centre ministériel dans les médias à Bromont. Mais vous voyez, on n'a même pas de lieu comme église encore. On n'a même pas un bureau d'église. Mon bureau est dans mon sous-sol. Et je suis en train de parler comme ça. On est en train d'établir un centre ministériel dans les médias pour rejoindre, pas juste Bromont, la francophonie tout entière. Mais là, pouvez-vous imaginer comment on rêve en couleur? Amen! Moi, je rêve en couleur et je continue toujours. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? C'est que Dieu entend nos paroles, Dieu voit notre cœur et Dieu a déposé des projets dans nos cœurs. Puis c'est lui qui est en train de faire en sorte que ces projets-là avancent. Bien, cette semaine, j'ai reçu un autre courriel d'une station de télévision qui est en train de se lancer en Martinique. Et puis ils m'ont contacté. Me demandant si j'avais des émissions de télévision qui pourraient télédiffuser. Bien, pensez-vous que je vais dire non à ça? Non. Ça fait que Dieu est en train de même préparer la place. Je me souviens des fois, des gens me disaient, mais c'est sur quel poste de télévision vous allez mettre vos réunions d'église que vous êtes en train de filmer? Bien, je sais qu'on a des contacts toujours dans l'Ouest canadien, que c'est sûr qu'on pourrait faire des choses à ce niveau-là. Mais même avant de savoir tout ça, je savais, bien, on va faire on va télécharger des émissions ou des réunions d'église sur l'Internet. J'avais toujours ça en arrière-plan. Mais aussi, quand quelqu'un me demandait sur quel poste de télévision, je n'avais pas de réponse. Mais je savais, Dieu va entreprendre pour ça. Mais là, voyez-vous, déjà, Dieu est en train d'entreprendre. Puis je ne sais pas combien de personnes vous connaissez qui se font approcher pour leur demander d'avoir une émission de TV. Ça n'arrive pas tous les jours, ça. Mais c'est la faveur de Dieu, encore une fois. C'est encourageant. Tout comme mon émission de radio où j'ai eu des personnes qui m'ont contacté me demandant d'avoir mon émission gratuitement. Mais c'est la main de Dieu, parce que c'est le projet de Dieu. Moi, je trouve ça merveilleux de servir le Seigneur. Même si on est au début, on est en train de bûcher là, au Québec. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas venir au Québec parce qu'ils disent que c'est trop dur. Mais si on a la perspective de l'éternité, puis on a la vision que Dieu a, bien on se réjouit, même en train de bûcher. Hein? On est plus béni que quand on a commencé, Jean. Au début, c'était juste moi puis Jean, on montait la salle tout seul. On était béni, mais là, on va de gloire en gloire, et là, il y a des gens qui se rajoutent, qui nous aident à monter la salle et qui nous aident à la défaire en plus. Et plus tard, dans quelques années, on va voir en arrière et dire, « Hey, regarde où c'est qu'on a commencé. Regarde ce que Dieu a fait. » Amen. Moi, je suis encouragé. Donc, moi, ma question pour vous aujourd'hui, c'est quels sont vos espoirs? c'est à quoi vous rêvez, ou c'est à quoi que vous avez rêvé dans le passé, que vous avez mis dans le fond d'un tiroir, puis vous avez dit, j'ose pas aller toucher à cette chose-là. C'est trop précieux, puis si j'ose rêver encore, j'ai peur d'être déçu. Est-ce qu'il y en a des rêves, peut-être, que vous n'avez jamais osé rêver à nouveau? Amen, il y en a. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de dire, là, je suis en train de souffler sur ces rêves pleins de poussière, puis enlever la poussière, laisser mon esprit faire revivre ces rêves-là. Amen. Il va y avoir une démonstration. On va commencer à parler de nos rêves. On va commencer aussi à prendre des pas dans la direction de ces rêves-là. Si vous sentez dans votre cœur que vous êtes appelé, comme Jean, dans le ministère de la louange, bien vous allez apprendre à jouer un instrument. Hein? Mais si vous venez donner votre nom demain matin puis vous dites, je vais être un conducteur de chant puis je n'ai jamais rien fait, ça ne se passera pas comme ça. Donc, on peut rêver en couleur, oui, mais il faut être quand même réaliste à un tel point où on va prendre les pas dans la bonne direction. Puis si vous êtes appelé à être un chanteur international, bien, gloire à Dieu, on va vous soutenir là-dedans, mais on va vous laisser prendre des cours de chant avant. Amen. Amen. Donc, dans Hébreux 11 et le verset 6, c'est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Voyez, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On s'attend à la récompense de Dieu parce qu'on cherche la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que lui, il veut pour le peuple francophone. Et je m'attends à une récompense de la part de Dieu. Si Dieu dit « fais ça » et on le fait, je m'attends que la main de Dieu va être là. Puis, qu'est-ce qu'on est en train d'établir ici? Ce n'est pas juste une église locale. Oui, on est une église locale, mais on est en train de faire partie d'une révolution dans le peuple québécois. Je ne sais pas si vous réalisez ça, mais on est en train de vivre le début d'une révolution. Ça ne sera pas une révolution tranquille non plus. C'est une révolution bruyante avec la présence de Dieu qui s'installe dans une place. C'est ça qu'on s'en vient faire ici. Peut-être que vous vous dites, bien, moi je ne peux pas oser croire comme ça parce que dans mes projets ou dans mes rêves, parce que c'est impossible. Et puis, vous savez que des fois quand on dit c'est impossible, moi je crois que c'est le parfait moment de se réjouir parce que là, ça va juste prouver que c'était la main de Dieu qui a fait en sorte que ça l'arrive. Quand c'est possible avec nous, bien, on va pouvoir prendre la gloire puis on va pouvoir dire, ah ben c'est parce que j'avais ci puis j'avais ça. Mais quand c'est absolument impossible, c'est la preuve que c'est Dieu qui va l'avoir fait. Amen. Et pour nous, c'est absolument impossible tout ce que j'ai dans mon cœur comme projet, mais je peux le voir avec mes yeux. Dans le monde spirituel, je peux tout voir ces choses-là. Mais si vous ne pouvez pas voir dans votre esprit ce don à quoi vous êtes appelé, vous ne pourrez jamais entrer dedans. Parce qu'il faut être capable de voir cette chose-là. Si Dieu a déposé quelque chose dans votre cœur, est-ce que vous voyez en train d'accomplir l'œuvre de Dieu dans votre vie? Ou est-ce que vous n'osez pas voir? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand on croit en quelque chose, on voit quelque chose. On voit la vision de Dieu. Et sans une vision, le peuple périt. Donc, il faut avoir la vision pour notre vie. Amen. Là, vous avez dit, Joël, moi j'ai un rêve, mais je ne suis pas assez bon. Est-ce que vous êtes déjà senti comme ça? Peut-être, c'est un rêve, c'est trop grandiose et je ne suis pas assez bon dans cette chose-là. Je me souviens, j'avais entendu une entrevue avec Wynonna Judd. C'est une chanteuse country. C'est pas une chanteuse chrétienne et ça vient pas de la parole de Dieu. Mais une des choses qu'elle avait dites, moi je m'en souviens puis je trouvais ça, c'était intéressant. Elle dit, ceux qui vont percer dans le monde de la musique, par exemple, elle disait, c'est pas nécessairement les personnes les plus talentueuses, mais c'est la personne qui a le plus de persévérance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui chantent bien, mais s'ils se découragent, et puis, vous savez, ils font toutes sortes d'affaires, mais après un bout de temps, ils disent « Ah, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Bien, ces personnes-là vont être mises de côté, même s'ils ont un super de beau grand talent. Puis, il y a des gens là qui n'ont pas beaucoup de talent, mais qui persévèrent. Et ils vont entrer dans leur destinée. Mais nous, qu'est-ce qui est merveilleux en tant que chrétiens, c'est que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, Dieu nous donne l'habileté pour l'accomplir, mais aussi l'onction pour entrer dedans. Sauf que là, on se dit « Bien, moi, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez talentueux, je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez... » On a toutes sortes de raisons pour dire pourquoi on n'est pas capable de le faire. Mais si on dit « Je puis tout par celui qui me fortifie, par celui qui me qualifie », c'est Dieu qui me qualifie. Il n'y a personne qui est capable de faire ce que Dieu nous demande de faire. Je me souviens de Joan DeWort, l'épouse de Dr. Dick DeWort. Elle a travaillé dans un laboratoire de microscope. C'est une infirmière Et puis, l'appel de Dieu sur sa vie, c'est d'être à la télévision, de prier pour les gens. C'est une femme remplie d'onction. Puis quand elle prie à la télévision, on sent la présence de Dieu. Mais avant, là, quand elle a commencé la télévision, elle était assise à côté de son mari, puis elle ne parlait pas. Les gens, là, ils appelaient même au studio, puis ils disaient, « Es-tu capable de parler, cette femme-là? Elle ne parle jamais. » Parce que c'est une femme gênée. Ce n'est pas une femme extravertie, Joan DeWitt. Puis nous, on la connaît même. C'était spécial qu'on l'a rencontrée parce qu'on la voyait à la télévision. Puis là, on s'est trouvé à manger chez eux. On trouvait ça, c'était spécial de rentrer dans la vie d'une personne comme ça. Mais là, elle nous a toutes partagé des choses. Elle dit, vous savez, là, je suis à TV maintenant, mais elle dit, avant, là, je parlais pas, j'étais gênée, puis je pensais jamais d'être capable de faire ça. Même, je suis allée suivre une formation comme infirmière dans les laboratoires parce que j'aime pas ça d'être avec le monde. Mais voyez-vous, Dieu avait un plan et une destinée pour elle. Et Dieu a fait en sorte qu'elle puisse prier aux nations, devant les nations. C'est merveilleux. Donc, il ne faut pas se limiter avec qui nous sommes présentement, parce que qui vous êtes, en réalité, ça ne rentre même pas dans l'équation. Quand la présence de Dieu vient sur vous, c'est lui qui vous qualifie pour qu'est-ce que vous êtes appelé à faire. Amen. Puis je vais vous montrer des exemples. Vous savez, Moïse, lui, il disait, « Bien, je ne suis pas capable, je n'ai pas assez le parler éloquent. » Mais dans Exode 4, verset 10, on voit ici, Moïse est en train de faire des excuses pourquoi il n'était pas appelé de Dieu. Mais Dieu avait une provision pour lui. Puis on sait la provision, bien, il dit, « OK, mais si tu as peur de ce côté-là, je vais t'envoyer à Aaron, il va venir t'aider. » Voyez, mais moi, je crois que s'il avait dépendu uniquement sur Dieu, il aurait été épargné des problèmes qui suivraient plus tard. Vous vous rappelez, là, il y a eu toutes sortes de problèmes à cause d'Aaron et puis de Myriam, tout ça. Mais il était un homme de Dieu qui croyait en Dieu, sauf il y avait un problème d'estime. Et ce soir, moi, je ne suis pas en train de vous prêcher un message d'estime de soi. Non, mais un estime en Christ qui est en vous. Si on a Christ en nous, on a l'espoir de la gloire, comme la parole de Dieu dit. Et dans Juges chapitre 6 et le verset 11, on va aller là, on va lire ici un personnage que vous connaissez sûrement, Gédéon. Gédéon, un grand homme de Dieu, mais lui, au début, qu'est-ce qu'il pensait de lui-même? Est-ce qu'il pensait que « Ah, certainement, moi, je suis digne et je suis capable de répondre à l'appel de Dieu sur ma vie. » Juges, chapitre 6 et au verset 11, et je vais lire dans la Bible du Semeur. « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Orpha, ou à Ophra plutôt, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon, un fils de Joas, est en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. En fait, il était là pour se cacher parce que Gédéon avait peur des Madianites. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Voyez-vous ici, Gédéon est là en réalité caché parce qu'il avait peur des ennemis. Et là, Dieu, il dit, « L'Éternel, ou l'ange de l'Éternel lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » C'était le titre que Dieu lui donnait, « Vaillant guerrier. » Est-ce que vous pensez que ça résonnait dans son cœur? Probablement pas. Hey, je suis ici caché, là. Verset 13, Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Verset 14, « Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. » C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Qu'est-ce que je trouve important ici? Ça dit, va avec cette force que tu as. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, Dieu ne s'attend pas qu'on va avoir tout l'équipement ou tous les talents déjà développés. Dieu dit, vas-y avec qu'est-ce que je t'ai donné. Et nous, pareillement, on y va avec la force qu'on a, on y va avec qu'est-ce que Dieu a mis entre nos mains. Par exemple, le Seigneur nous a vraiment parlé, il y a quelques temps, qu'on devait lancer une série de CD. J'en ai parlé la semaine passée, mais des CD avec la parole de Dieu, des CD sur la guérison divine, par exemple, où il va y avoir la musique dans le fond et les gens vont pouvoir écouter la parole de Dieu, juste une série de versets sur la parole de Dieu accompagnée d'une trame sonore musicale dans l'onction de Dieu. Et les gens vont recevoir ça dans leur maison, ils vont être guéris chez eux et bénis. Amen. Ça, c'est une chose. Vas-y avec la force que tu as. On a un système de son merveilleux. Bon, on va prendre le système de son, on va faire quelque chose avec, plus que juste le dimanche matin, mais on va faire des choses pour voir des gens touchés. De votre côté, c'est quoi que vous avez dans votre main ce soir? C'est quoi que vous avez comme don ou talent que Dieu vous a donné? Vous savez, Jonathan Martin, qui était ici la semaine passée, qui a eu un accident, il disait qu'il avait ses deux jambes de cassées ou ses deux pieds qui ont été cassés. Puis dans cette situation-là, il a prié puis il a demandé au Seigneur, il dit, « Bien, Seigneur, c'est quoi que je peux faire? J'étais supposé d'aller à la recherche d'un emploi, puis là, je suis pris comme ça. » Bien là, avec les dons et les talents que Dieu lui a donnés, il a réalisé qu'il devait semer de son talent dans l'œuvre de Dieu, puis enregistrer des disques musicaux, des disques de musique pour la guérison, tout ça. C'est merveilleux, mais ce soir, Dieu vous demande, c'est quoi que vous avez dans votre main pour donner à Dieu? C'est quoi que vous pouvez lui offrir? Dieu dit, vas-y avec ce que tu as. Et c'est à nous de dire oui ou non. Vous savez, on a toujours la responsabilité. Dieu peut avoir un appel sur notre vie et on peut dire non à Dieu. Je connais des gens qui ont dit non à Dieu pendant un certain temps et puis ils ont pris des détours majeurs. Des fois, ça leur a rallongé leur destinée de 10 ans. Je connais une telle personne puis il me disait, Joël, j'ai fait un méga détour. Mais vous savez, Dieu est capable de vous ramener sur la bonne voie. Si vous dites oui à Dieu, ça se peut que vous avez pris un détour, mais Dieu est capable. Vous savez, en anglais, il y a une expression « God can unscramble scrambled eggs ». Donc, des œufs brouillés, Dieu est capable de débrouiller. Dieu est capable de tout faire ça, même dans vos vies, même si vous avez fait des gaffes, vous avez été désobéissant. Mais ma prière pour vous, c'est que vous ne serez pas désobéissant. Que ce soir, si le Seigneur est en train de travailler dans votre cœur, puis vous savez que Dieu vous a donné un don, un talent, une passion pour quelque chose, et peut-être l'heure est arrivée pour vous de dire oui à Dieu. Oui, Seigneur, je vais commencer à marcher dans la foi à ce niveau-là. Puis ça ne veut pas dire que vous allez tout lâcher, vous allez quitter votre emploi demain matin, puis vous allez tout faire, là. Mais quand on lit dans Hébreux 11, ça dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, même si on ne voit pas physiquement cette chose-là que Dieu nous appelle à faire, mais on peut commencer à démontrer notre foi en prenant des pas par la foi pour cette chose-là. Et sûrement, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans vos têtes présentement. Il y a toutes sortes de rêves que vous avez. Mais ce serait quoi le premier pas dans la direction de l'accomplissement de votre rêve? Vous le savez, sûrement. Puis si vous ne savez pas, priez, puis Dieu va vous montrer une direction pour marcher dans votre destinée. Mais on est responsable devant Dieu, on peut dire oui, on peut dire non à Dieu. Puis quand on dit non, souvent c'est parce qu'on a peur, on a une crainte de l'échec. Mais vous savez, moi j'aimerais bien mieux me rendre au ciel en ayant essayé de faire la volonté de Dieu que d'avoir passé à côté de ma destinée, parce que j'avais peur. Moi, je pourrais être sur mon lit de mort, là, puis dire, j'ai tout fait, je ne suis pas rendu là, mais j'ai tout fait ce dont j'ai cru Dieu voulait que je fasse. Puis à date, Dieu ne nous a jamais laissé tomber. C'est ça qui est merveilleux. Si on prend le temps de chercher la face de Dieu, on prie pour demander, Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse? Bien, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne nous guide jamais dans le ditch, en français. Dans le fossé. Dieu ne conduit jamais là. Dieu ne conduit toujours dans de verts pâturages. Ça, c'est merveilleux. Amen. Parce que vous pouvez passer à côté de votre destinée. Puis ça serait pas ma prière pour personne ici que vous dites, oh, j'ai manqué l'appel de Dieu sur ma vie. Mais allez-y avec la force que vous avez. Et tout ça, bien sûr, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi de répondre à l'appel de Dieu sur notre vie, n'est-ce pas? C'est quelque chose. Mais d'où c'est qu'elle vient, la foi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on essaye d'avoir? Comme nous, dans le passé, quand on a pris des pas par la foi, il y a des gens qui ont vu ces choses-là et ont dit, « Ah, je serais pas game de faire ça. » Mais pour nous, c'était pas comme, on va essayer d'avoir la foi. C'était un don surnaturel de Dieu que Dieu nous donnait au moment. Puis là, par la suite, on dit, « Aïe, aïe, on a fait ça, c'est vrai. » Mais Dieu nous a rendu un petit peu somnambules d'une certaine façon parce qu'on avait la foi pour le faire. Puis par la suite, on a vu la main de Dieu dans tout ça. Mais la foi, ça ne vient pas de nous. Donc, quand on prend un pas par la foi, c'est simplement de l'obéissance. C'est simplement nous qu'on a obéi à Dieu puis on a accepté le dépôt de foi que Dieu a mis en nous. Parce que la foi, ça vient de Dieu. On ne peut pas se glorifier parce qu'on a pris un pas par la foi. Amen. Dans Romains 12, le verset 3, Ici, ça nous parle que chaque personne a reçu de Dieu une mesure de foi. Je vais vous lire, ça dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même un trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, vous ne pouvez pas dire ce soir, « Ben moi, je ne peux pas rentrer dans ma destinée parce que moi, je n'ai pas la foi pour cette chose-là. » C'est faux. Vous avez tous reçu une mesure de foi. On a tous une mesure. Mais il y en a, c'est ceux qui ont une mesure plus grandiose, si on veut, une plus grande foi, parce qu'ils ont osé à la développer. Si vous allez au gymnase, ça se peut que vos bras vont grossir, parce que vous allez travailler, vous allez faire en sorte que vos muscles vont grossir. Mais pareillement, spirituellement, vos muscles peuvent grossir aussi, mais il faut les mettre en pratique. Si vous essayez de lever un véhicule là, demain matin, bien possiblement, si vous n'avez jamais fait d'exercice, vous n'allez pas réussir. Mais si vous avez pratiqué pendant des mois puis des mois, comme on voit à la télévision, il y en a des super Hulk Hogan, là. Mais eux autres sont capables parce qu'ils ont pratiqué beaucoup. Mais pareillement, avec la foi, Dieu nous demande de prendre une petite bouchée par la foi, ensuite il nous donne une plus grosse bouchée, après on mange tout un gâteau complet. Mais c'est comme ça, hein? Toujours un pas à la fois que Dieu nous bâtit. Comment est-ce qu'on peut développer notre foi? Bien, c'est tellement facile. C'est pas en venant dans une allée en avant, puis en nous demandant de prier, comme ça vous allez recevoir de la foi. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues en avant pour la prière, puis c'est quoi votre besoin, mon frère, ma soeur? J'ai besoin d'avoir de la foi. Je dis, ah oui, bien vous avez déjà la foi. Moi, j'en ai besoin de plus. Ah oui, savez-vous qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Écoutez la parole de Dieu. Moi, je ne prie jamais avec une personne pour dire, oui, je vais prier que surnaturellement, vous avez un dépôt de foi, vous n'avez rien à faire, vous allez être Monsieur Hulk Hogan de la foi. Ça, ce n'est pas biblique. La foi, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on entend la parole de Dieu, on se nourrit, l'homme intérieur devient plus fort. On devient plus fort, le plus qu'on écoute la parole de Dieu, on vient de plus en plus fort. Ensuite, dans Luc 6, verset 45, on comprend c'est quoi ça. C'est un dépôt qu'on est en train de faire dans le trésor de notre cœur. L'homme bon, dans Luc 6, 45, ça dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et là, on voit la révélation du dépôt. Mais dans votre cœur, c'est quoi que vous avez déposé dans votre cœur? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est déposée là? Et quand vous n'avez besoin, vous avez besoin de prendre un pas par la foi, est-ce que la foi est là? Est-ce que vous avez travaillé votre foi à un tel point où vous êtes prêt à dire oui à Dieu? Puis si ce n'est pas rendu là, bien continuez à faire des dépôts. C'est jamais trop tard. Exposez-vous à la parole de Dieu, remplissez-vous de la parole, puis votre foi va se développer. Puis il y a des choses qu'on doit comprendre. Vous savez, on parle ici, la bouche parle de l'abondance du cœur. Mais il y a des gens, des fois, qui pensent que simplement en récitant la parole de Dieu, qu'ils vont changer le monde. Et c'est vrai, puis c'est pas vrai. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que si je confesse la parole de Dieu, ça va tout changer. C'est faux, ça, parce que c'est pas simplement la parole de Dieu confessée, mais c'est la parole de Dieu dont on croit qu'on confesse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais tout ça, c'est relié avec notre foi. Si on fait juste confesser une parole de Dieu, un verset de même, ça ne changera pas notre vie à moins qu'on y croit. Il faut que la foi soit dans cette confession-là. On ne peut pas faire l'abstraction ou une séparation. La foi doit vraiment être le véhicule, et notre confession, le véhicule de notre foi. Parce que nos paroles contiennent quelque chose, contiennent le doute ou contiennent la foi. Puis nous, quand on a un dépôt de foi, et là, la bouche parle de l'abondance de notre cœur, bien là, on est en train de révéler en tant que tel, c'est quoi qu'on a déposé là. Et on espère que c'est la parole de Dieu. Et une des choses, on ne veut pas simplement dire des choses, on veut que ça soit dans notre cœur, profondément, dans notre âme. Et ce soir, je veux juste prendre quelques moments pour vous aider à comprendre c'est quoi l'âme. Quand on parle que quelqu'un a une âme, c'est quoi ça, l'âme? Bien, l'âme, c'est le niveau dans votre vie là, pour le raisonnement, donc vos pensées, votre volonté, et vos émotions. L'âme, c'est vos pensées, votre volonté et vos émotions. Ça, c'est la partie en vous, votre âme. Et vous aviez également un esprit. Votre esprit, c'est ce qui connecte avec Dieu parce que Dieu est esprit. Donc, lorsque vous priez Et quand vous priez en esprit, votre esprit va connecter directement avec l'esprit de Dieu. Et c'est merveilleux. Ça, c'est le niveau de l'esprit. Mais votre âme, là, c'est la partie de vous qui a besoin d'être sauvée une fois que vous avez été sauvé. J'explique. Quand on vient à la nouvelle naissance, on accepte Jésus dans notre vie, on est sauvé. Mais savez-vous que vous pouvez avoir des raisonnements charnels, même une fois sauvé? Est-ce que ça se peut, ça? Vous êtes sauvé, mais vous pensez encore comme le monde. Mais ce qu'on doit faire, c'est renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Donc, votre pensée a besoin d'être sauvée, votre volonté a besoin d'être sauvée, et vos émotions aussi. Ça se peut que vous êtes un chrétien qui vit dans ses émotions. Vous êtes guidé par vos émotions, ou peut-être pas. Peut-être que vous êtes guidé par votre volonté charnelle. Moi, là, ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire. C'est pas ce que Dieu veut pour moi. C'est pour ça, là, c'est tellement important qu'on soit transformé. Dans Romains 12, 2, ça dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ça, c'est un verset qu'on a souvent cité. Mais encore une fois, c'est pertinent pour ce soir. Parce que si on veut prendre des pas par la foi, il faut faire en sorte que notre âme soit sauvée, soit en santé. Spirituellement, notre âme doit être en santé. Parce que sinon, on va commencer à penser comme le monde, ou on va penser comme l'ennemi, on va penser les craintes. Et ça va nous empêcher de croire que je puis tout par celui qui me fortifie. On ne pensera pas « je puis tout par celui qui me fortifie ». On va dire « je peux rien parce que je regarde à mon nombril et à ma possibilité ou à mes talents personnels ». On se limite énormément si notre âme est malade. Mais si notre âme est sauvée et notre âme a été transformée par la puissance de Dieu, renouvelée par la parole de Dieu, bien là, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous donner un commandement ou il peut nous partager notre destinée. Puis là, on va être prêt à prendre le saut, on va être prêt à obéir à Dieu parce qu'on va être renouvelé dans notre intelligence. Est-ce que ça fait du sens ce soir? Amen. Puis dans Hébreux 4, verset 12, ça c'est super important. Ça nous prouve comment c'est important d'être dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Ça dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, on parlait du cœur. C'est quoi qui va faire le triage dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit? C'est quoi qui va faire le triage pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est la parole de Dieu. Puis on sait dans Jean 1:1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » On sait que Jésus est la parole de Dieu incarnée. Donc, ça a tout rapport, s'exposer à la parole sur une base quotidienne, à chaque jour de notre vie, mais aussi avoir cette relation d'intimité avec Dieu à un tel point que quand Dieu a simplement besoin de nous chuchoter dans l'oreille, on va obéir. Amen. Donc, l'âme doit être transformée. Et encore une fois, c'est nous, c'est, on décide si on se laisse transformer par Dieu. Vous savez, Dieu a le désir d'utiliser chaque personne ici ce soir. Dieu a une destinée pour chaque personne. Quand Dieu vous a créé, ce n'était pas une erreur. Quand Dieu vous a créé, Dieu avait déjà un plan parfait pour vous. Puis c'est un plan de gloire. Vous avez été prédestiné à la gloire. Quand on est sauvé, déjà là, il y a un super de beau plan merveilleux pour nous. La seule chose que Dieu s'attend de nous, c'est un oui. C'est pas compliqué, c'est un oui. Et oui, Seigneur, je te laisse me transformer par ta parole. Je laisse mon âme changer. Mes pensées, ma volonté va être soumise à la volonté de Dieu. Mes émotions, je ne serais pas un chrétien qui a toujours quelque chose, là, peur que quelqu'un vienne m'offenser, un esprit d'offense. Non, je laisse ces choses-là de côté. Je me laisse transformer par Dieu, puis j'entre dans ma destinée. Et par la suite, comme on a vu, bon, c'est la bouche parle de l'abondance du cœur, donc il va avoir le fruit d'un vocabulaire de la foi. Si votre âme est en santé, bien qu'est-ce qui va sortir de votre bouche? Ça va être la foi. Amen. Vous allez parler par la foi. Vous allez jaser avec les gens. Puis les gens vont trouver mon doux. Tu sais que tu sors, toi. Parce que vous êtes remplis de la foi. Ça déborde. Vous en transpirez. La foi de Dieu qui est en dedans de vous, que vous relâchez par vos paroles. Ça, c'est merveilleux. Dans Joël, chapitre 3, le verset 10. Ici, ça dit que le faible dise « Je suis fort ». que le faible dise « je suis fort ». Peut-être vous vous dites, comme Gédéon, hey, « je suis le plus petit de ma famille, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable ». Dieu vous dit ce soir que le faible dise « je suis fort ». Mais je n'ai pas les cours théologiques pour faire ça, moi. Que le faible dise « je suis fort ». Je n'ai pas les cours de musique. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Que le faible dise « je suis fort ». Parce que quand moi, je suis faible, il se manifeste comme étant fort à travers moi. Parce que ma dépendance n'est pas sur moi. Ma dépendance est carrément juste sur Dieu. Parce que je peux dire hey, « c'est impossible pour moi ». Mais c'est impossible pour moi, heureusement, parce que c'est possible avec Dieu. Puis ici, à l'église de Bromont, là, qu'est-ce qui est merveilleux? Si on peut tous réaliser que nous sommes tous incompétents, c'est merveilleux. Parce que si on est tous incompétents, Dieu fait de nous des gens compétents. Amen. Mais Dieu a tous déposé des talents en vous. C'est-à-dire que Dieu va prendre la mesure de compétence qu'à vos yeux, ben, je suis compétent là-dedans. Ben, avec ça, il peut faire fructifier ça tellement merveilleusement. Parce que vous savez que vous avez des dons, vous savez que vous avez des talents. Mais sans Dieu, là, c'est de l'incompétence. Avec Dieu, c'est merveilleux. Vous comprenez, là, je ne suis pas en train de dire qu'on est tous incompétents, même si je l'ai dit. Je me contredis. On est incompétent juste dans notre chair, mais avec Dieu, on a tout un package deal. Mais que le faible dise « je suis fort ». Amen. Et puis ici, j'aimerais ça vous inviter à tourner dans Genèse chapitre 17. Vous voyez, des fois, les gens vont dire « bien, c'est mentir parler comme ça ». Que le faible dise « je suis fort ». Si t'es faible, t'es faible. Dis la vérité. Si t'es malade, dis que t'es malade. Compte pas des mensonges puis dis pas « par ces meurtrisseurs, j'ai été guéri ». Il y a des gens qui pensent comme ça. Dis la vérité. Mais savez-vous que la vérité est au-delà de la réalité humaine? Une réalité humaine que les gens vont voir avec les yeux à l'œil nu comme ça, ça c'est juste une réalité temporaire. La vérité, c'est ce que Dieu dit à votre sujet. C'est ça qui est vrai. C'est pas qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez de vos yeux naturels. Si Dieu a dit « par tes meurtrices, par mes meurtrices, vous avez été guéri », ben c'est ça votre héritage, c'est qui vous êtes. Si vous êtes appelé à faire le tour du monde pour prêcher l'Évangile, même si vous ne croyez pas que vous êtes assez bon pour faire ça, si Dieu le dit sur vous, ça va arriver. Il n'y a rien qui est impossible à vous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, que le fait dit « je suis fort ». Donc, si vous dites peut-être ce soir, ben, « j'ose pas affirmer des choses sur ma vie parce que j'ai des peurs ou j'ai peur de mentir ». On va voir ici qu'est-ce que Dieu en dit dans Genèse 17, versets 4 à 6. Si Dieu dit « voici mon alliance que je fais avec toi ». Ici, Dieu parle à Abraham. « Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Wow! Toute une parole que Dieu lui a donnée. C'est merveilleux. Romains 4 maintenant. Est-ce qu'on peut aller dans Romains chapitre 4? Si Dieu vous disait ça, là, ce soir, Dieu vous donnait toute une parole sur votre vie. Je vous appelle à le plus grand ministère au monde. Si Dieu vous disait ça, ce soir, ça serait merveilleux. Amen. Mais peu importe ce que Dieu peut dire à votre sujet, des fois on va dire, ben, ça se peut pas, c'est pas vrai. Regardez ce que Dieu en dit. Romains chapitre 4, verset 17. Ici, Dieu parle, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Voyez-vous ici, Dieu appelle les choses qui ne sont point, sur le plan humain, là, comme si elles étaient. C'est pour ça que nous, on peut parler, qu'on est en train d'établir un centre ministériel pour rejoindre la francophonie de la planète, à partir de Bromont, parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Puis pour moi, je suis autant convaincu que cette chose, ce ministère existe, comme je suis convaincu qu'on était en Alberta pendant 4 ans. C'est autant réel pour moi. Parce que je sais, puis les choses que j'ai vues avant d'aller en Alberta, je les ai réalisées parce que je les ai vues dans l'esprit avant. Et là, je peux voir, moi, à Bromont, dans l'esprit, ce centre ministériel pour rejoindre la francophonie. Est-ce que vous le voyez? Votre appel pour vous, est-ce que vous le voyez ce soir? Est-ce que vous osez voir cette chose-là? Est-ce que vous osez appeler ces choses-là comme si elles étaient? Mais là, vous avez dit, ben là, c'est charrier, là. Oui, On charrie, nous autres. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Espérant contre toute espérance, ça veut dire tout va mal. Il crut quand même. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Savez-vous pourquoi on peut avoir une pleine conviction ce soir qu'on va rentrer dans notre destinée? Parce que ça ne repose pas sur nous. C'est Jésus qui bâtit son Église. C'est Jésus qui veut rejoindre la francophonie. C'est Jésus qui veut que ça vienne à Bromont. Puis je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui qui le sait. C'est le plan de Dieu, c'est son cœur. Bien là, on peut avoir une pleine conviction parce que c'est lui qui accomplit sa promesse. Si Dieu vous a donné une promesse, il va l'accomplir dans vos vies. Comme j'ai dit tantôt, la seule chose, c'est qu'il faut que vous marchiez avec Jésus pour que ça s'accomplisse. Vous devez marcher avec lui. Si Jésus veut vous guider dans cette vie, dans votre destinée, puis vous, vous allez, ben Jésus va tant par là-bas, moi je m'en vais par ici, vous n'y arriverez pas. Vous voulez aller à Montréal, mais vous voyez toujours des pancartes, Sherbrooke, Sherbrooke, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Tournez de bord, repentez-vous, c'est simplement ça. Se repentir, c'est de virer de bord, changer de direction. Marchons avec Jésus, marchons avec lui. Amen. Il va l'accomplir. Je suis tellement content parce que je n'ai pas besoin, moi, de l'accomplir, cette mission-là. Moi, j'ai simplement à accomplir chaque petit pas que Dieu me demande d'apprendre. C'est simple, la vie chrétienne. C'est tellement simple. C'est simple, ça l'est pas, hein? Mais c'est simple. Amen. C'est simple parce que c'est lui qui le fait. Mais nous, dans notre chair, des fois, on trouve ça difficile. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller se cacher puis aller dans la présence de Dieu une couple d'heures. Puis là, on fait une petite visite, là. Seigneur, viens m'encourager. Puis Dieu est toujours bon. Puis son esprit vient nous rafraîchir. Hein? Des fois, peut-être que vous vivez des épreuves. Allez une couple d'heures visiter le Seigneur, là. Vous allez voir, il est super bon pour encourager. C'est vrai, il est très, très bon là-dedans. Dans 1 Timothée, verset 6 et verset 12, ça dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » Vous avez une belle profession de foi, mais vous n'osez pas en parler à personne. Mais ici, ça dit, tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Ben oui, on peut même aller à la télévision et dire, on est en train de faire ça. Vous, si vous êtes appelé à quelque chose, vous pouvez en parler à de nombreux témoins et dire, bien moi, Dieu m'appelle à faire une telle chose, puis je suis en train de me préparer à entrer là-dedans. Mais là, vous allez dire, ouais, mais je vois les gens, est-ce qu'ils vont rire de moi? Ben, ça se peut. Puis ça, savez-vous, moi, je me souviens, Dr. Dick qui me racontait, avant la fondation de l'antenne de télévision Miracle Channel, il parlait avec les pasteurs de Lethbridge. Il y avait un groupe de pasteurs qui venaient ensemble pour prier, puis faire comme on fait à Granby avec les autres pasteurs. Donc, il y avait ce petit groupe-là. Et puis, il est en train de dire aux gens, aux pasteurs, on est en train d'établir une station de télévision chrétienne qui va rejoindre tout le pays du Canada. Il a dit ça des années de temps, puis les pasteurs riaient. C'est comme, il est-tu cute, lui? Il rêve. Mais c'est vrai, il me disait ça, il disait, le monde là, tu sais, je parlais, puis on dirait, j'étais comme, les gens ne pouvaient pas croire. Parce que des fois, nous autres là, des gens de foi, on croit des choses qui ne sont pas réalistes. C'est vrai. Mais Dieu aime ça, se servir des gens qui ne sont pas réalistes. Nous autres, on est différents. C'est vrai. Mais lui, il osait croire, puis il en parlait à de nombreux témoins du projet de bâtir cette station de télévision-là. Vous savez, ça coûte des millions ou des milliards, non, millions, des millions, hein? Des millions pour fonder ça. Et vous savez, il était dans un Tim Horton, et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un, il avait un rendez-vous avec lui, il a dit, j'ai besoin d'être rencontré dans le Tim Horton, et quelqu'un il a remis un chèque d'1 million pour, comme dépôt pour le bâtiment qu'ils ont acheté. Est-ce que vous avez vécu ça récemment au Tim Horton? Non, pas moi, en tout cas. Mais s'il n'osait pas en parler à personne, si c'était mission top secrète pour Dieu, puis il n'en parlait pas à personne, bien, peut-être Dieu n'aurait pas envoyé cette personne-là. Mais là, il y avait déjà quelqu'un qui savait, toi, tu as à cœur les médias, tu as à cœur de faire quelque chose comme ça, bien, est-ce que je peux te donner 1 million pour t'aider? Et là, moi, je dirais, oui, gloire à Dieu, oui, pas de problème. Mais vous voyez, si on a la foi dans quelque chose, il faut que ça soit tellement réel dans notre cœur qu'on est prêt à en parler aux gens. C'est pas top secret. Mais là, il y en a qui, ouais, mais j'aime mieux attendre que Dieu le fasse. Il y a une sagesse à avoir. Admettons, vous êtes appelé à être conducteur de chant, OK? Puis là, vous parlez à tout le monde. Moi, je suis appelé à être le conducteur de chant de l'Église de la Victoire. Puis là, vous voyez, Jean est là. Je suis appelé à être le conducteur de chant. Le seul conducteur de chant. Il faut faire attention aussi. J'ai dit qu'il faut partager notre vision, notre cœur, mais il faut faire attention aussi. Des fois, il y a une saison dans le sens, on peut dire, moi, je crois que Dieu m'appelle à être un chanteur. Amen. Ou un conducteur de chant. Sans tasser quelqu'un d'autre dans vos affaires. Hein? Mais bon. Amen. Et puis, ben, c'est ça. Mais il ne faut pas avoir peur de professer qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, de peur que les gens vont rire de nous. Parce que vous savez, c'est juste les gens qui sont morts à l'opinion des gens qui vont faire quelque chose pour Dieu. Je vais vous dire ça, là. Il faut mourir à l'opinion des gens. Si vous êtes préoccupé d'avoir toujours tout le monde qui vous flatte le sens du poil ou que tout le monde vous approuve, vous allez peut-être passer à côté des bénédictions de Dieu. Mais moi, j'ai appris une chose, il faut être prêt à mourir à l'opinion des gens. Parce que, savez-vous, en passant à la radio, en faisant des choses, des fois dans les médias, les gens entendent des choses, puis ils ont une façon de twister les choses qu'on peut dire. Puis des fois, ça me revenait, ah ben, Joel Spinks, lui, il enseigne telle affaire. J'étais comme, j'ai jamais dit ça, moi. Mais là, ça circule, Joel dit une telle chose. Ou comme j'étais sur un site web, ou des sites web, comme étant un faux prophète, parce que je crois dans les dîmes. Donc, moi, je suis un faux prophète, supposément. Mais si j'étais tout offusqué, puis, oh, ouais, le monde pense que je suis un faux prophète, bien, je vais arrêter de parler de ça. Mais là, l'ennemi commence à nous dicter qu'est-ce qu'on va prêcher, qu'est-ce qu'on ne prêchera pas. Puis, vous savez, là, il faut mourir à l'opinion des gens, puis dire, moi, je vais avec la force que j'ai, puis c'est Dieu qui me fait mon chemin. Puis, il y en a des gens qui vont penser que j'enseigne des choses que je n'enseigne pas, qui ne m'ont jamais entendu parler d'un tel sujet, puis qui disent que je dis une telle chose. Mais il faut juste vivre avec. Ça fait partie de la game. Ça se peut-être qu'il y en a qui vont dire des choses à votre sujet. Puis peut-être cette chose-là, ce serait une chose qui vous empêcherait de rentrer dans votre destinée si vous le laissez vous empêcher. Mais il faut se dire, non, moi je réponds à l'appel de Dieu. Dieu m'a partagé, m'a donné un dépôt de foi pour une telle chose. Puis moi, je me réjouis de cette chose-là. Peu importe ce que le monde peut interpréter. Amen. Donc, il faut mourir à soi-même, mourir à l'opinion des gens. Parce qu'il y a des gens, je peux vous dire, qui passent à côté. Parce qu'ils ont tellement peur de ce que les gens vont dire. Dans toutes sortes de situations, on jase avec eux. Puis, ouais, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ça. Amen. Je vous invite maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 13. C'est une chose d'avoir notre âme touchée par la foi, transformée par la parole de Dieu, avoir un vocabulaire aussi qui est en accord avec la parole de Dieu. Mais là, ensuite, il faut aller à un autre niveau et cette fois-ci, avoir l'esprit de foi en nous. Qu'on soit animé par l'esprit de foi, que ce ne soit pas juste quelque chose qu'on essaye d'avoir, mais vraiment qu'on soit gouverné par l'esprit de Dieu qui est l'esprit de foi en nous. Verset 13, de 2 Corinthiens, verset chapitre 4 plutôt, c'est dit, donc 2 Corinthiens 4, 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Pourquoi qu'on parle? Parce qu'on croit. Je parle parce que je crois. Je vais relire. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. On ne parle pas pour rien dire. On parle parce qu'on croit quelque chose, parce que nous avons le même esprit de foi. Comme dans cette parole-là, l'esprit de foi. Je parle parce que je crois puis je parle. Amen. Amen. Je parle. Amen. Et dans Hébreux 10, verset 23, ça dit « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. » C'est tellement rafraîchissant, ça. Moi, j'aime ça, des paroles comme ça. C'est des promesses de Dieu. « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Ça ne dérange pas les obstacles devant nous. Dieu reste toujours fidèle à ses promesses. Toujours. Dieu, il ne va jamais faillir. Nous autres, on peut se tromper, nous autres, on peut trébucher, mais Dieu reste toujours, toujours fidèle. Ça, ça nous encourage. Pour la ville de Beaumont, c'est la même chose. Même si on sait présentement qu'il n'y a pas de zonage pour une église légalement, puis ça, Dieu est capable dans un instant de mettre son doigt sur quelqu'un, puis tout va changer. Mais qu'est-ce qu'on doit faire d'abord pour faire en sorte que, ou pour voir la réalité de cette promesse-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? On sait, on doit écouter la parole de Dieu, se remplir, tout ça, comme on a dit. Mais il faut ensuite aller dans un niveau dans le monde spirituel. Puis c'est là ce qu'on s'en va ce soir. OK? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est entrer dans un niveau de la puissance de Dieu, où l'Esprit de Dieu transforme notre esprit. On a parlé de l'âme, mais là, on s'en va un petit peu toucher aux choses de l'Esprit de Dieu. C'est ça que Dieu veut faire, qu'on puisse garder notre foi dans les promesses de Dieu, qu'on puisse croire, qu'on puisse décréter, qu'on puisse parler de ces choses-là. Mais par la suite, il faut commencer à prier en esprit pour voir la manifestation de ces choses-là. C'est super important. Est-ce que vous êtes prêts à cette autre partie? Je vais essayer de faire ça rapidement. Mais ce soir, il n'y a pas de restaurant, ou il y en a peut-être, mais il n'y a pas rien qui se passe ici, ça fait qu'on peut étirer ça, hein? 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 4. Ça dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il y a toutes sortes de forteresses dans nos pensées, des forteresses même physiques. Des fois dans une ville comme ici, il y a des forteresses qui sont là. Comment est-ce qu'on va voir la percée de ces choses-là? Est-ce que c'est simplement confessant? Non, ça c'est juste une partie de la chose. Il faut également ensuite prier en esprit pour voir des choses changer. Puis on va aller voir dans Genèse chapitre 11, le verset 6. Ici on voit qu'il y avait un langage uni. Au départ, il y avait un langage uni parmi le peuple. Et puis Dieu a fait quelque chose. Dans Genèse chapitre 11, verset 6 à 8. Ici ça dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous un même langage ou une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris, en parlant de la tour de Babel. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voyez-vous, ici, il n'y a rien qui pouvait les empêcher, là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un langage uni. Allons, descendons, et la confondons, leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Voyez-vous, quand il y a un langage uni, qu'est-ce qui se passe? Les hommes pouvaient faire n'importe quoi. Dieu le dit lui-même. Il n'y a rien qui peut les empêcher de faire cette chose-là, parce qu'il y avait un langage uni. Mais ce n'était pas une chose de Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les langues ne se comprennent plus. Donc, c'est la tour de Babel qu'on connaît. Mais dans Actes 1-8, on voit que Dieu avait un plan pour le langage réuni pour ceux dont il voulait la révélation ou la manifestation des projets divins. Parce que quand ce n'est pas un projet de Dieu, Dieu ne veut pas que ça réussisse, mais quand c'est un projet de Dieu, Dieu nous donne une stratégie. Et dans Actes 1-8, ici, on lit, c'est dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et c'est quoi que le Saint-Esprit a fait? On connaît dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Mais on sait même dans Actes 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Donc, on sait qu'ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de cette puissance-là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout d'un coup, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et tout le monde ensemble, ils parlaient en d'autres langues, un langage que personne ne comprenait humainement, mais que Dieu comprenait. Et c'était un langage uni qui priait les prières qui étaient sur le cœur de Dieu pour voir la récolte que Dieu voulait. Et on sait que l'Église primitive, ils ont vu 3000 personnes sauvées. Dans la première réunion d'évangélisation. C'est très bien ça, n'est-ce pas? 3000 hommes? Ah, c'est ça ce qui nous manque, il faut prier plus. Et là, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, c'est dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on prie, mais on sait qu'on est en train de prier les mystères de Dieu et Dieu est en train de transformer des choses et est en train d'aligner le ciel et la terre ensemble pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est tellement important. C'est pour ça qu'on vous invite à vous joindre à nous les mercredis soirs lors des réunions Tefila. C'est des temps où on prie en esprit, puis on est juste au début, je peux vous dire, au début de qu'est-ce que Dieu va faire parmi nous. Mais si on veut voir quelque chose se passer à Bromont et au Québec, parce que c'est pas juste pour le Bromont qu'on est ici, mais pour le Québec, pour la francophonie, si on veut voir quelque chose, ça va prendre quelque chose de surnaturel qui va se passer parmi nous. Vous savez, déjà, une personne a été guérie il y a 2 semaines, mais si on a plus de personnes guéries, touchées comme ça, surnaturellement, ça fait la publicité pour Dieu. C'est merveilleux, ça. Donc, il faut qu'on puisse prier ensemble comme ça. Et vous allez dire, mais comment est-ce que ça marche, Joël? Mais par exemple, vous priez pour l'Église, vous avez un but, OK? Vous priez pour votre famille, c'est un autre but. Vous allez prier pour quelque chose en particulier devant Dieu, mais vous allez laisser l'Esprit de Dieu prier à travers vous en langue pour ce but-là. Ou des fois, vous allez dire, bien, vous sentez juste qu'on dit à prier en langue comme ça, puis vous ne saurez même pas c'est pourquoi. Et Dieu, par la suite, va vous dire, c'était pour une telle personne que tu as prié. Des fois, on ne sait pas toujours, mais on peut avoir l'objectif et dire, Seigneur, moi, je m'en viens prier pour l'Église de Bromont, que tu fasses un changement dans le monde spirituel, que tu fasses en sorte que tous les morceaux du casse-tête se mettent ensemble. On ne connaît pas, nous autres, qu'est-ce qui doit changer, mais toi, tu connais qu'est-ce qui doit changer. Toi, tu sais la réponse. C'est pas par la force, c'est pas par not my power. En tout cas, ni par la force, mais par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Amen. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous autres, si on veut que l'Esprit le fasse à travers nous autres? On doit prier, laisser le Saint-Esprit prier à travers nous. Et il ne faut pas avoir la gêne de l'opinion des gens encore. On prie dans le sous-sol chez mes parents. Il n'y a pas de caméra là. Pas de caméra, vous rentrez, puis on prie ensemble, puis on laisse l'Esprit de Dieu prier à travers nous. Puis je sais, on est au début, on apprend à se connaître, tout ça, c'est correct. Mais moi, je crois qu'on va monter à un tel point dans le monde spirituel qu'on va, on va toucher le ciel. Et Dieu va changer les choses ici à Bromont. Il y a des gens qui vont être sauvés, certainement, mais on s'attend à vivre des signes, des prodiges, des miracles. Le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu des signes, des prodiges, des miracles. Moi, je ne crois pas dans un Dieu mort. Quand on lit la parole de Dieu, il y a plein de miracles. On a vécu des choses, Mathilde et moi, dans le monde spirituel, même dans nos réunions, des choses qu'on ne dira même pas ce soir parce qu'on va attendre que Dieu le fasse. Mais on a vécu des choses, puis on a parlé à des gens, puis oh, « Ah, mais là, c'est trop, c'est surnaturel ça. » Oui, on sert un Dieu surnaturel. Mais comment est-ce qu'on peut, au Québec, là, comment est-ce qu'on peut croire dans un Dieu surnaturel dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, on croit, oui, qu'il a existé, mais aujourd'hui, on ne s'attend plus à vivre du surnaturel. Mais depuis quand que ça a commencé, cette religion-là? Moi, je n'ai jamais embarqué là-dedans. Le même Dieu qu'on lit dans la parole de Dieu, il a toujours resté pareil. Il n'a jamais changé. Sauf que s'il faisait des miracles, des choses surnaturelles, comment ça on n'en verrait plus dans nos églises? Comment ça, tout d'un coup, c'est fini, ces affaires-là? Mais ce n'est pas fini, en tout cas, dans ma vie, dans notre vie. Mais une des choses, moi, que je veux faire, c'est qu'on va simplement prier puis on va laisser Dieu le faire. Puis on ne vous dira même pas qu'est-ce qu'on a vécu. Comme ça, vous autres, vous allez vivre puis vous allez dire, waouh, regardez qu'est-ce que Dieu fait. Mais moi, c'est sûr qu'on est juste au début de qu'est-ce que Dieu va faire dans la gloire. Donc, Dieu a réuni le langage pour qu'on puisse prier notre esprit en accord avec son esprit. Gloire à Dieu. Et il y en a qui vont dire, « Ouais, mais est-ce qu'on devrait vraiment prier comme ça? » Bien, c'est simple, dans 1 Corinthiens 14, 14, c'est dit, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, donc mon esprit, je suis en train de bâtir l'homme intérieur, mon intelligence demeure stérile, quoi donc faire? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, c'est pour ça, à Tefila, on a une place pour chanter aussi, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc, ce soir, que je veux vous encourager à comprendre et à recevoir dans votre esprit qu'il n'y a absolument rien d'impossible pour une église qui prie dans l'esprit. Il n'y a absolument rien d'impossible pour nous. Vous savez, je connais des ministères dans d'autres pays, en Alberta, tout ça, qui ont vécu la main de Dieu. Ils ont des bâtiments qui se font donner, comme Victory Village à Calgary, là, en Alberta, le siège social des Églises de la Victoire. C'était autrefois les résidences pour les athlètes olympiques en 1988. C'est ça maintenant le siège social à Calgary des Églises de la Victoire. Et savez-vous comment qu'on a eu ça? C'était un don. Les résidences, là, tout ça, là, c'est un hôtel. Là. C'était donné aux Églises de la Victoire. Gloire à Dieu! Puis c'est pas la seule église. On en connaît d'autres à Calgary. Un pasteur que j'ai rencontré, il m'a dit que ça faisait deux églises qui bâtissaient là, dans pas longtemps, puis c'était au-delà d'un million l'église. Là, vous allez dire, mais ça, c'est à Calgary, c'est en Alberta. Mettez ça sur le break, là. Absolument pas. C'est le même Dieu qu'on sert. Dieu a un projet pour la francophonie. C'est impossible que tout le Québec s'en aille en enfer. Mais vous avez dit, mais c'est-tu vrai? Oui, quand on ne connaît pas Jésus-Christ et on ne met pas le Seigneur de notre vie, on n'est pas en direction vers le ciel. Donc, il faut donner notre vie à Jésus-Christ. Et moi, je crois que Dieu veut sauver le Québec. Dieu il a un amour pour ces gens-là. Vous savez, le taux de suicide au Québec, c'est le plus élevé au monde. Pourquoi ça? Mais parce que les gens, là, ils n'ont pas d'espoir. Si on n'a pas Dieu, on n'a pas d'espoir. Comment est-ce qu'on pourrait avoir l'espoir si on n'a pas Dieu dans notre vie? Bien, si on meurt, qu'est-ce qui se passe avec nous? On est juste comme un chien. Hein? C'est ça que le monde se dit. On n'est rien, on n'a pas d'esprit dans nous. Non, mais Dieu a un esprit, d'une destinée, d'un appel pour chacun d'entre nous. Il y a tellement des grands projets pour nous et pour le Québec. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se positionner personnellement dans cet appel-là. Puis ce soir, c'est tellement simple que je vous partage, mais c'est un privilège qu'on a. Et l'ennemi, là, il ne veut pas qu'on prie en esprit. C'est pour ça qu'il attaque ce message-là tellement, parce qu'il sait que si nous autres, on commence à prier des mystères que lui, il ne sait pas, là, mais ça le dérange. Mais si on commence à prier des mystères, on prie dans l'intercession, il y a des choses qui commencent à changer à Bromont, des choses qui changent au Québec, bien, Dieu est content, nous autres, on est contents, puis le diable, lui, il n'est pas content. Il n'est pas content. Et c'est pour ça qu'il attaque le message. Il ne veut pas que les chrétiens entrent dans cette dimension-là surnaturelle. Puis peut-être vous avez entendu des choses dans le passé contre le parler en langue. Peut-être vous avez entendu des choses comme ça. Je ne sais pas. On vient tous d'un arrière-plan différent. Mais ce soir, moi, je vais vous encourager à simplement lisez la parole de Dieu pour vous-même. Voyez qu'est-ce que Dieu en dit et laissez Dieu vous rencontrer.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.